Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 4 février 2025 et c'est l'épisode 397. C'est l'événement dans la tech ces derniers jours, hein, et on vous en avait déjà parlé depuis quelques épisodes. C'est DeepSeek, l'intelligence artificielle au logo de baleine, hein, qui fait et d'origine chinoise surtout, qui fait plonger les valeurs des boîtes d'intelligence artificielle américaines parce qu'elle est performante et pas chère. Mais on revient dans cet épisode sur ce Lidl de l'intelligence artificielle avec un peu de recul et puis... ironie, OpenAI se plaint. Ils se plaignent de quoi ? Eh bien, ils se plaignent d'avoir été exploités sans donner leur accord pour l'entraînement de cette IA chinoise. Ça vous rappelle rien ? Peut-être que si. Et puis, en complément de l'IA, on revient aussi sur les résultats financiers d'Apple, Tesla qui trébuche, et puis les dernières frasques d'Elon Musk. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Bah écoute, bien, jusqu'à présent.
Tu as réussi à éplucher toutes les news qui concernaient DeepSeek, à nous faire une analyse que tu vas pouvoir nous livrer, c'est ça, dans cet épisode, pour nous tenir au courant.
Ouais, j'ai épluché DeepSeek, il n'y a plus qu'à faire.
Ah bah d'accord, très bien. C'est bon la baleine ? Ça se cuit bien ? Non,
c'est... La baleine, non, bon. C'est protégé surtout. C'est...
Ah bon, on va pas en manger là. Bon, au passage, deux petits mots très rapidement, Guillaume, puisqu'il y a l'ami Gaëtan qui officie dans Tech Café Domotique à l'occasion, hein, quand ils font des épisodes, qui a cité dans son podcast perso Coticast, il nous a cité, il dit en gros qu'il a testé sur Perplexity quels sont les meilleurs podcasts français et en français sur la tech. Et donc il y a le Rendez-vous Tech en premier, bon, très bien. Il y avait Tech Café en deuxième. J'étais tout content. Bon, en fait, selon comment on cherche, on est deuxième ou troisième, Guillaume, sache-le. Il y a Studio 404 qui n'a pas été mis à jour depuis 2019, qui parfois prend la seconde place. Mais en tout cas, on est bien classé, tu vois. Donc, Perplexity nous classe bien. Voilà, ça, c'est important. Deuxième chose, est-ce que tu sais qu'en ce moment, je passe un petit peu trop de temps à essayer de configurer des trucs en domotique. Je m'amuse avec Lautrix. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que Lautrix. Je ne sais pas si tu connais non plus la métrique. Je sais pas si tu vois.
Non, du tout.
C'est un peu les horloges de YouTubeurs, tu sais, les trucs qui coûtent très cher avec les gros pixels là en couleur.
Ah oui.
On les voit parfois. Okay. Et il y a Autrix qui est un système que tu peux installer sur des ESP, etc. Et donc, je configure ce truc. Je passe beaucoup trop de temps en ce moment à essayer de le faire fonctionner avec Home Assistant. Je lui envoie des requêtes MQTT. Donc voilà, je m'amuse en ce moment, je bricole avec ça. Est-ce que tu fais des bricolages en ce moment, informatique, des explorations, des tests, des trucs comme ça ?
Des tests,
est-ce que
t'as
le temps ?
Oui, des tests toujours, mais pas, pas comme ça en tout cas. En tout cas,
pas sur ça.
Non, pas des tests de youtubeurs, de futurs youtubeurs.
Ah non, voilà, rien, loin de moi l'idée de vouloir m'en servir pour incarner la hype YouTube. C'est juste que je voudrais dire à mon fils qu'à 19h, il faut qu'il vienne mettre la table. Tu vois, c'est beaucoup plus pragmatique. Il faudrait qu'il ait ça dans sa chambre. Bon, on verra si j'y arrive. Merci beaucoup à Cédric, Frédéric Léger, à Romain Leclerc qui est derrière ActuTech sur Reddit et le podcast TechTen. Merci à Franck B, Kataï, Yann Paulmier, Armand Delesser et Mathieu Voirin qui foule le tapis rouge de l'accueil des nouveaux soutiens Patreon de Tech Café depuis la semaine dernière. Vous pouvez faire comme eux parce que si vous écoutez Tech Café, si vous l'aimez, vous voulez en profiter davantage, je peux vous inviter à vous abonner dès maintenant sur patreon.com/techcafé. En devenant abonné, vous accédez à un flux exclusif qui vous permet d'écouter Tech Café sans aucune publicité directement dans votre application de podcast habituelle. Et puis, vous avez également des contenus exclusifs comme par exemple les petits éditos que j'ai commencé à diffuser en début de semaine sur mes coulisses de créateurs de contenu. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. C'est un format un peu newsletter, donc ça arrive automatiquement comme les messages Patreon. Puis j'y livre voilà, des choses un petit peu plus personnelles, mais aussi et surtout en soutenant Tech Café sur Patreon, vous assurez que Tech Café continuera d'exister longtemps et vous accompagnera dans le futur. Alors que vous soyez un pro des nouvelles techno ou passionné, c'est une veille qualitative et sourcée, on l'espère, hein, pour suivre l'actualité tech tout en passant un bon moment, alors que ce soit pendant vos projets, vos trajets, vos bricolages, en faisant du sport ou du ménage, Tech Café vous les rendra ces moments plus agréables. Lancez votre navigateur patreon.com/techcafé. Guillaume, on a des avis sur Apple Podcast qui sont arrivés. Alors, un des derniers a été laissé par, ça va faire bizarre de le dire, Appelle-moi Q. C-U-L, Appelle-moi Q. Donc voilà, je ne sais pas si je devrais mettre un petit avertissement sur cet épisode, Appelle-moi Q, qui a dit « Découvert par hasard ». Excellent podcast. J'ai passé de bons moments à écouter ces différentes interventions. Je m'abonne. Merci beaucoup à toi, Appelle-moi Q, d'avoir laissé cet avis. Je pense que cette personne n'a pas découvert ce podcast par hasard, ou en tout cas pas totalement. Je pense qu'elle a découvert ce podcast en se rendant compte qu'il y avait des centaines d'avis positifs sur les apps de podcast. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux. Parce que plus il y a de personnes qui évaluent positivement le podcast, plus il y a des personnes qui l'écoutent, plus il y a des personnes qui l'écoutent, plus il y a d'avis. C'est la recette miracle pour conquérir le monde. Donc, vous aussi, prenez part à cet édifice incroyable de la notoriété d'Otech Café sur les apps de podcast en déposant votre propre avis. Et puis, on vous invite aussi à commenter sur techcafé.fr dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes et sur Discord où on a aussi d'autres discussions diverses et variées. On parle évidemment d'Otech, mais pas que. Et le lien est dans les notes de l'épisode techcafé.fr/Discord. Et justement, Guillaume, je sais que soit toi, soit un robot, soit un stagiaire, je ne sais pas, scroll sur Discord pour aller identifier les remarques les plus pertinentes depuis l'épisode hebdomadaire de la semaine dernière. À chaque fois, hein, toutes les semaines, tu te prêtes à cet exercice. Là, il y a deux personnes qui ont retenu ton attention. Oui. Il y a Max Silve qui a déposé plein de messages, d'ailleurs. Il parle de plein de choses. Qu'est-ce qui a attiré ton attention là-dedans?
Oui, alors, du coup, je n'ai pas lu, forcément, manifestement. Mais c'est vrai qu'il a réagi à la news du dernier supplément en ligne en disant que lui, il utilise toujours des Blu-ray réinscriptibles pour stocker des jeux qui ne rentrent plus sur son SSD. Et donc, ça existe encore, hein, et qu'il se rassure, hein, Steven Garnga l'a confirmé. D'ailleurs, Verbatim fait toujours des Blu-ray, même si Sony arrête la production, hein, comme on le disait. Je ne sais pas si c'est vraiment compétitif aujourd'hui avec un disque externe de 2 ou 4 teraoctets, que ce n'est pas méga cher en ce moment, mais bon, pourquoi pas. C'est toujours moyen de faire des sauvegardes, c'est important de faire des sauvegardes.
Et donc, c'est pas pratique, je trouve, par rapport à un NAS, moi.
Bah, c'est pas pratique, effectivement, c'est moins pratique, j'imagine, mais bon. Juste un clin d'œil à Grémy aussi, qui nous a raconté son aventure pour récupérer des vidéos sur MiniDV. Alors moi, je profite toujours du prétexte d'avoir accédé à des vieilles données pour acheter du matos d'époque, parce que c'est marrant. La dernière fois que j'ai eu des disquettes à lire, parce que bon, il y a quelques années de ça, j'ai pas hésité à racheter un portable Pentium d'époque. Alors oui, bien sûr, évidemment, j'aurais pu acheter avec USB, je suis au courant que ça existe, mais ça aurait été beaucoup moins fun. Car le saviez-vous, les cartes Compact Flash sont compatibles IDE, et donc moyennant un convertisseur PCMCIA Compact Flash, ben Windows 95 les reconnaît comme des disques durs, et donc transférer des fichiers à travers les âges devient alors très facile.
Oh, c'est beau, ça ressemble à une forme d'archéologie comme ça, de traducteur à travers le temps. Très bien, eh ben, ça me laisse imaginer voilà, à quoi tu occupes tes journées. Moi, c'est pour configurer Outrix avec Home Assistant, toi, ça. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous de réagir. C'est important pour nous d'avoir ces interactions avec vous pour continuer à nourrir Tech Café et à prendre connaissance de vos réactions. Sans autre forme de procès, il faut qu'on en parle. C'était obligatoire. C'est ce que tu m'as dit, je crois, par message il y a une semaine, Guillaume, juste après notre enregistrement. Il y a quelques jours, en tout cas, tu disais « Bon, ben, on va pas passer à côté. Il va falloir qu'on continue à parler de DeepSeek. » Et oui, ça a ponctué l'actualité tech depuis quelques jours. À chaque fois, des nouvelles infos qui arrivent. Ils ont jeté un pavé dans la mare à défaut d'une baleine, hein, c'est ça?
Ben, c'était la semaine de la baleine. Et qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à présent, c'était du sel de table. Désormais, tout le monde connaît le logo de DeepSeek. Ta mamie te demande comment utiliser DeepSeek. DeepSeek, c'est la star des App Store. C'est aussi un escroc, c'est aussi un ennemi, c'est aussi une campagne de manipulation de masse, c'est aussi une IA de propagande, c'est aussi des voleurs de données. C'est le signe annonciateur du déclin de l'Occident, c'est une trompette de l'apocalypse. J'exagère vraiment à peine, hein, parce que ben, on en a vraiment beaucoup parlé de toutes les manières possibles cette semaine. Alors les auditeurs de Tech Café, les assidus connaissent ce nom depuis une bonne année, hein, et du jour au lendemain, ce qui est marrant, c'est que c'est devenu une star planétaire. Et plus juste un truc de geek. DeepSeek en est le premier surpris, je pense d'ailleurs, ils ont été victimes de leur succès avec pas mal de soucis de connexion. Alors sur les infos chinoises, ils ont même eu une attaque DDoS, une attaque de demi-déni de service. Peut-être des patriotes américains qui attaquent la menace chinoise, je sais pas. En tout cas, gros point problématique pour l'orgueil des Américains, évidemment, c'est l'efficacité de DeepSeek. Et plein d'articles ont été écrits pour dire que les 5 ou 6 millions ne correspondent pas au vrai prix du modèle prodige. Et d'ailleurs, c'est vrai, d'ailleurs, les Chinois n'ont même jamais dit le contraire. Parce que c'est dans l'article de DeepSeek V3, comme on l'a mentionné en supplément, qui dit que l'entraînement du modèle V3 est pas R1. Hein. Ce modèle V3, le modèle d'origine, a coûté cette somme-là. Bon, on ne sait pas combien a coûté l'entraînement de la star actuelle, qui est donc R1. Mais de même, on ne sait pas non plus combien ils ont de GPU en tout et quel est le prix d'achat de tous ces GPU. Et voilà. Donc ça, tout ça, ce n'est pas inclus. Ce n'est pas le prix de tout, hein, c'est juste le prix de l'entraînement, du temps de calcul, quoi. Alors c'est bien évident, je pense, hein, que cette somme, du coup, représente qu'une petite fraction du budget complet de DeepSeek. Il n'empêche qu'ils ont très bien optimisé leur code d'entraînement. Ils sont allés jusqu'à programmer leur carte en PTX. Alors la PTX, ce n'est pas tout à fait de l'assembleur, mais c'est un langage de très bas niveau. Hein. C'est quasiment de l'assembleur des cartes graphiques, quoi. Donc c'est du plus bas niveau que CUDA, ça nécessite une maîtrise du logiciel qui est absolument remarquable et beaucoup beaucoup de travail, et ça aussi ça coûte de l'argent. Et l'argent, vous connaissez les Américains, il n'y a que ça qui les intéresse. Alors évidemment, Semi-Analysis a fait une étude là-dessus qui est assez intéressante pour avoir une vue d'ensemble, parce que oui, ça arrange les Chinois aussi, bien sûr, de faire croire que des génies de chez eux ont révolutionné le monde de l'IA dans leur garage. Mais c'est faux, et sans minimiser leur performance, hein, il faut bien se rendre compte que DeepSeek n'est pas un micro-projet à la marge, c'est aussi... il faut rester, disons, équilibré, quoi. Alors, DeepSeek, ils ont quand même des moyens. Alors, on l'a dit en supplément, DeepSeek, c'est un fonds d'investissement qui s'est lancé il y a 2 ans, avec comme idée d'utiliser l'IA sur les marchés financiers. Ils ont acheté des GPU pour se faire leur propre data center, pour ça. En 2021, donc avant les restrictions de Biden, ils ont acheté 10 000 A100, et ils ont continué à se procurer autant qu'ils pouvaient des GPU. Donc ils ont mentionné dans l'article de V3, là, de DeepSeek V3, ils ont mentionné des H800 dans le papier de DeepSeek, c'est comme ça, qu'ils ont fait apparemment, donc c'est cohérent, hein, c'est plus de génération suivante, mais par rapport à H100, ce sont des puces un petit peu castrées. Castrées surtout au niveau du réseau d'ailleurs, ce qui explique aussi les efforts assez colossaux de programmation sur ce point qu'on a détaillé. Semi-Analysis a fait des analyses, hein, c'est leur boulot après tout. Et donc au moment où je parle, DeepSeek aurait dans les 60 000 GPU, tout modèle confondu. Donc des plus anciennes, les A100, aux H800, et même quelques H100 ont récupéré, on ne sait pas trop comment d'ailleurs. Tout ce beau monde représenterait quand même dans les 500 millions de dollars au bas mot, pour un joli petit data center. Et après, il y a des coûts de fonctionnement de tout ce bordel, hein, c'est pas vraiment un truc qui rentre dans le sous-sol de chez Mamie, quoi. Tout cela dit, ça reste quand même assez modeste, hein, si on compare ça aux data centers de Microsoft ou Meta, hein, évidemment. Eux, ils auraient dans les 150 employés. Là, ils recrutent à tour de bras avec des gros salaires, des grosses flexibilités, et puis bon, 10 000 GPU pour faire Mumuse, hein, ça ne se refuse pas. Ils recrutent directement des doctorants, les meilleurs des universités, et puis ils sont forts, hein, c'est évident. Hein, et malgré leur taille modeste, ils vont rivaliser quand même là avec OpenAI et Meta pour des prix dérisoires, puisque c'est quand même 27 cents du Megatoken chez DeepSeek V3 contre 2,5 $ pour GPT-4O. À ce prix-là, on imagine qu'ils ne sont pas rentables d'ailleurs, hein, et que le but c'est de croître le plus vite possible. Et bon, vu la couverture médiatique, ça marche, hein, pour le moment. Est-ce que ça va continuer? DeepSeek, malgré tout, a utilisé des puces occidentales, hein, c'est des puces Nvidia, hein, pour entraîner ses modèles. Ils ont pu en choper encore quelques temps, mais là c'est fini. Biden a fermé le robinet en partant. D'ailleurs, on apprend qu'ils utilisaient des puces Huawei pour l'inférence de DeepSeek R1, et qu'ils proposent sur le site ou l'appli. Il y a une pub qu'on a vu passer sur X, hein, qui a circulé. Ou apparemment, c'est marqué en chinois, mais bon, apparemment, c'est les modèles distillés, donc les modèles plus petits, les répliques distillées, on va dire, de R1 qui tournaient pour des prix modiques sur des puces Ascend 910C, donc de chez Huawei, des puces dédiées 100% à l'IA, mais qui sont 100% chinoises. Alors, c'est difficile de dire si ces puces sont des alternatives qui sont viables aux GPU de Nvidia actuelles de DeepSeek, à quel point, et surtout, pendant combien de temps, quoi. Parce que pour l'année qui vient, ça va probablement passer, hein, pour l'année d'après, peut-être, mais après, voilà, ils ont des H200, ça va finir par être distancé, hein, par les puces occidentales, et les performances actuelles et futures des Ascend sont assez incertaines. Donc pour Dario Amodei, donc le PDG d'Anthropic, hein, les restrictions fonctionnent, parce qu'après tout, DeepSeek V3 est globalement du niveau de Claude, mais avec 12 mois de retard. Même O1, qui est donc... O1 est talonné par R1, hein, donc R1 est pratiquement au niveau de O1, mais aujourd'hui c'est O3, le plus puissant. Et il est déjà disponible, et c'est donc sans plus aucun accès à l'attaque américaine à partir de maintenant, ça va peut-être être dur de se maintenir. Voilà. Et donc Dario prend un embargo assez dur, ce qui est, il en est conscient, un peu contradictoire quand même. Parce que tout ce beau monde, hein, de la Silicon Valley clame que leur but c'est de faire une IA, une super IA, voilà, super humaine, pour le bien de toute l'humanité. Donc c'est dur de dire qu'il faut surtout pas que les Chinois avancent, tu vois, toute l'humanité, c'est les Chinois aussi, ils sont humains quand même, malgré tout. Donc Dario dit que la Chine va utiliser cette puissance pour l'armée, pour les IA militaires, tout ça, et c'est pour ça qu'il faut que l'Occident le fasse avant. Voilà, parce que l'Occident, ça ne lui viendrait pas une seconde à l'idée d'utiliser l'IA à des fins militaires.
Bah non.
Ça ne faut pas déconner.
Bah bien sûr que non.
Bien sûr que non. Alors cette semaine, voilà, ça s'est un peu affolé. On a assisté donc à une cascade de réactions plus ou moins bien informées, et plus ou moins de mauvaise foi, pour tenter de se rassurer, quoi.
C'est intéressant de voir les puces Huawei, a priori qui seraient commercialisées à partir du premier trimestre 2025. Est-ce que c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte quelle est la puissance de ces ressources-là sur le plan matériel?
Elles sont réputées comparables à des H100.
Ce qui n'est pas neutre quand même, je trouve.
Ce qui est important.
Si Huawei est capable de faire ça, c'est pas mal déjà. Bah,
c'est, alors, le truc, c'est que c'est très bien, parce que pour l'instant, c'est ça que les gens utilisent. Là, les B100 arrivent, les puces Blackwell donc, vont arriver pour les remplacer là, cette année. Donc, il y aura déjà une génération de décalage dans le cours de l'année, quoi, d'ici à peu près 6 mois, je pense. Et après, par contre, c'est toute la question, parce que probablement Nvidia va continuer à faire des puces toujours plus puissantes. Huawei, il va être un petit peu limité, si tu veux, par les capacités de construction, les capacités de fabrication des Chinois, qui ne sont pas exactement au même niveau, voire carrément pas au même niveau, a priori, hein, que celles des Occidentaux. Donc, c'est aussi une question pour l'avenir, quoi.
On parle d'OpenAI, je le disais tout à l'heure, mais qui se plaint que DeepSeek aurait été exploité leurs ressources et leurs données sans l'autorisation. C'est quand même un comble, Guillaume, qu'OpenAI puisse se plaindre de ça. En tout cas, ça motive les créateurs de contenu, les détenteurs de l'information aussi à prendre part à cet édifice de la défense des contenus. Essayer de, en gros, je vais le dire, je vais être un peu vulgaire, mais faire chier ces boîtes d'IA quand elles viennent récupérer notre donnée, c'est ça ?
Oui, alors, il y a eu énormément de trucs concernant effectivement les données. Bon, il y a beaucoup de réactions. De toute façon, ça continue, hein. Il y a même un sénateur républicain qui s'appelle Josh Hawley, là, qui a un projet de loi qui punirait de prison tout import-export de produits IA vers la Chine. De la Chine ou vers la Chine. Un truc complètement lunaire, d'ailleurs, qui punirait de 20 ans de prison. Quiconque téléchargerait DeepSeek, en gros, ça passera jamais. Enfin, si ça passe un jour, c'est extrêmement grave. Bon, je pense qu'on allait très loin.
Il y a tellement des choses qu'on n'imaginait pas passer qui sont passées quand même.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est peut-être même assez inquiétant, mais bon. Plus marrant, la palme peut-être de la mauvaise foi revient à Sam Altman. Hein. Il y a tous ceux qui disent que DeepSeek a volé les données d'OpenAI. Alors, pas les sets de données, parce que de toute façon, personne n'y a accès. Mais DeepSeek aurait utilisé les sorties de ChatGPT pour entraîner ses modèles. Alors, j'ai un scoop hein, pour OpenAI. Ça fait 2 ans que tout le monde le fait. Et 90% des datasets sur Hugging Face pour fine-tuner les IA de roleplay et autres hein, contiennent des données synthétiques qui sont créées par ChatGPT. Cohen se prend même parfois pour ChatGPT, comme un paquet d'autres d'ailleurs. OpenAI ne peut pas l'ignorer. Enfin bon, là, ça passe à la télé, alors du coup, c'est du vent. Hein. C'est que DeepSeek, les vilains, ils ont généré beaucoup. En fait, on sait pas à quel point, mais bon, ils ont probablement généré beaucoup des textes par ChatGPT. Donc, ils ont profité des données d'OpenAI qui lui-même a profité des vôtres. Hein, parce que, comme une majorité de médias l'a bien souligné, quand même, c'est OpenAI qui pense que subitement, le copyright, c'est important. Hein. Lui qui est accusé par le New York Times, entre autres, hein, d'avoir siphonné les siennes, et qui, comme tous les autres, hein, se sert allègrement sur LibGenesis et chope tous les bouquins pirates possibles. Donc le voir pleurer parce que les productions de GPT servaient en concurrence, c'est un peu marrant quand même. Alors bien sûr, sur Fox News, selon le AI Tsar, cette technique de distillation serait bien mesquine, et peut-être même une raison d'interdire le modèle. Donc lui aussi, il parle d'interdire le modèle. C'est un modèle qui, je rappelle, est un open source, mais bon, bref. Alors, rien n'est fait, hein, mais voilà, c'est un truc qui est dans l'air, c'est spécial. Alors, je précise quand même que, d'ailleurs, c'est pas vraiment une distillation pour moi. C'est juste un fine-tuning, hein, parce qu'on n'a pas accès aux productions brutes du LLM. OpenAI, personne n'a les productions brutes. Hein, donc, on utilise les textes créés par ChatGPT. Mais si tu utilises les textes créés par ChatGPT, c'est pas vraiment une distillation. On entraîne juste un modèle sur les textes d'un autre. Une distillation, c'est quand tu prends un gros modèle professeur, il y a un petit modèle étudiant, quoi, et tu forces la distribution de probabilité du petit à coller à celle du gros. Et donc, ce sont les outputs complets des deux modèles qui doivent se correspondre, et pas les mots, mais des probabilités sur tous les mots à chaque fois. En fait, sur tous les vecteurs résultats, pas juste sur les mots, il n'y a pas d'échantillonnage, quoi. Parce que sinon, tu perds l'information, du coup, c'est pas efficace. Mais bon, de toute façon, c'est un détail. Toujours est-il que ça fait beaucoup rigoler et qu'on voit toute cette histoire de données volées, quoi. Et on voit apparaître, comme tu disais, des actes de résistance, on va dire de rébellion de la part des créateurs YouTube, par exemple, hein, et de certains administrateurs de sites web. Donc sur YouTube, il y a une créatrice qui utilise de manière très créative les fichiers de sous-titres hein, pour ruiner complètement les transcriptions de ses vidéos. Donc elle utilise le format HAS, oui je sais, mais là ça veut dire Advanced Substation, décidément, avec le mec appelle-moi Q.
Décidément, oui.
C'est peut-être le Q de James Bond, attention.
Non, c'était un CUL.
Ah, pardon.
Mais c'est pas grave.
Désolé. Allez, j'ai pas vu. Ok, d'accord. Donc, le format HAS, ce truc permet donc de la mise en page super chiadée, quoi. Couleur, gras, italique, et tu peux faire même du positionnement libre. Et du coup, elle a rajouté des textes complètement aléatoires, très loin à l'extérieur de l'écran. Alors, c'est pas visible, mais un robot qui chope ce petit HAS, il va le choper, il aura une transcription qui sera complètement sabotée, puisqu'il aura un petit peu n'importe quoi, en plus des vrais textes de la vidéo, quoi. Et donc, les IA le rendent dans le... Bon, voilà. Bon, enfin, bon, passons. Passons aux administrateurs web qui, eux-mêmes, ont plusieurs outils à leur disposition, comme par exemple Nepenthes et Locaine. Alors, le principe de ces deux malwares, hein, parce que finalement, c'est ce qu'ils sont en réalité, c'est de perdre dans un dédale de pages vides les bots d'OpenAI ou d'Anthropic, ou de Google, hein, qui ignoraient les directives de robot.txt, le fichier robot.txt. C'est le fichier qui définit si oui ou non le site autorise les robots, les bots à venir récolter son contenu. Mais ça, c'est juste indicatif. Et les robots en question peuvent parfaitement s'en foutre totalement et faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que les décodeurs énervés ont eu l'idée de Nepenthes, du nom de la fleur carnivore. Hein. Le but, c'est de créer des milliers de pages.
Je connaissais pas le nom, mais je connaissais pas cette plante carnivore. Après, je suis pas spécialiste des plantes carnivores non plus, mais bon.
Oui, moi non plus, mais j'aime bien, je trouve ça rigolo. Donc le but, c'est de créer des milliers de pages. Le problème, c'est qu'il y en a qui puent quand même. Bref,
Tu nous donneras les refs.
Pour attirer les mouches en même temps.
Ah oui. Oui. Ok.
Donc le but, c'est de créer des milliers de pages dans le sous-domaine du site web qui ne contiennent rien ou du texte poubelle quoi. Mais toutes les pages se lient entre elles. Toutes ces pages vides finalement se creusent, se lient entre elles. Donc si un robot part sur une des pages, il va errer pour l'éternité dans un dédale de pages vides en pages vides ou pour ramener juste des poubelles quoi, ce qui va faire perdre du temps et de l'argent aux boîtes qui l'envoient. Alors c'est marrant, et pour le moment c'est assez efficace, si on en croit les logs du créateur de Nepenthes, hein, dont le hobby sadique est de voir combien de temps les robots de Google et ses compagnies se sont paumés là-dedans. Mais pour le moment ça marche un petit peu, mais après faut pas se leurrer, hein, les grosses boîtes sont déjà au courant que ce genre de technique existe, et ils vont trouver une parade à un moment donné. Le créateur du logiciel admet, hein, de toute façon le but c'est pas de gagner, c'est de résister, c'est de retarder la putréfaction du web, je cite, et parce que, voilà encore je cite, l'internet avec lequel j'ai grandi a disparu depuis longtemps. J'en ai marre, je contre-attaque. Si on doit être avalé, soyons le plus indigeste possible.
Ce que je trouve marrant dans l'article qui couvre ce sujet, c'est qu'il évoquait, il y a une espèce de questionnement quand même qui évoquait à un moment. Donc en gros, il sait qu'il ne va pas gagner. Il sait qu'il va leur faire dépenser plus de temps, d'argent, mais aussi d'énergie. Et quelque part, il pourrait culpabiliser du fait que, comme ils vont de toute façon gagner, il est pour partie responsable du fait que ces boîtes-là dépensent plus d'argent et d'énergie. Mais je trouve ça rigolo de voir qu'on peut être amené à se poser ce type de questions jusqu'au bout. Et c'est assez louable. Mais heureusement que ça existe. J'aime beaucoup la mécanique de jouer avec les sous-titres pour faire en sorte qu'on joue avec un alignement qui fait que nous, en tant qu'humains, on n'est pas pénalisés, mais que ces pauvres robots bêtes qu'ils sont prennent le contenu tel quel et se font avoir. On continue avec la propriété intellectuelle des contenus et notamment les contenus générés par IA. Il y a le bureau des copyrights qui s'est exprimé et qui dit que, en gros, il n'y a pas besoin de faire avancer les arbitrages qui avaient déjà été faits il y a de cela des décennies.
Oui, et puis d'ailleurs, c'est même un petit peu ce qu'on avait dit quand on avait déjà parlé, hein, puisqu'on parle de données plus ou moins bien acquises là. C'est vrai que le bureau du copyright, finalement, dit que tu ne peux pas vraiment protéger une œuvre créée par IA si elle a été créée de manière trop simple, en fait. Pour eux, finalement, c'est assez simple. Hein. Tu ne peux pas revenir sur les règles actuelles. C'est des règles qui datent de 65, hein, donc effectivement, qui sont vieilles. Mais donc, tu ne peux pas être protégé, ne peut être protégé par copyright, voilà, que les productions qui sont suffisamment transformatives, suffisamment transformées. Donc, une œuvre générée par un prompt seul, même compliqué, hein, ne peut pas être protégée. L'idée, c'est qu'un prompt, tout seul, ne contrôle pas suffisamment l'image finale. Et c'est vrai qu'un prompt peut donner une multitude d'images qui peuvent être très très différentes, substantiellement différentes. Et que donc, ce n'est pas une œuvre définie, même si elle se rapproche vaguement de ce que l'artiste a dans la tête, quoi. Et donc, il doit y avoir un travail identifiable de l'artiste dans l'œuvre finale. Donc, il y a des centaines d'œuvres qui sont déjà co-créées avec des IA qui sont déjà protégées par copyright, hein. Mais il faut un travail supplémentaire, il faut un contrôle supplémentaire. Alors, bien sûr, ça empêche tout ça. Évidemment, vous imaginez, ça empêche d'avoir à copyrighter 800 000 images par jour générées sur Civitaire, hein, parce qu'il a pu s'en créer des millions par jour d'images. Hein. Et donc, s'il crée une œuvre copyrightable, ça prend moins de 5 secondes, t'imagine le bordel. Hein, les œuvres qui prennent plus de 5 secondes à créer, du coup, sont totalement noyées dans la masse. Donc, ce point de vue est d'ailleurs assez consensuel parmi les spécialistes. On est plutôt d'accord. Il y a quand même des gens qui se battent encore pour protéger des œuvres qu'ils estiment être les leurs et qui n'ont été créées finalement qu'avec des prompts. Ça veut dire aussi que les œuvres doivent être évaluées au cas par cas par le bureau, donc c'est quand même aussi un boulot assez monstrueux pour eux.
Ils sont sans doute pas staffés hein, pour répondre à ces enjeux-là. On comprend qu'ils veulent se baser sur des arbitrages qui ont déjà été faits, c'est beaucoup plus simple et quelque part ça paraît assez pragmatique. On parle de DeepSeek, il faut qu'on parle un petit peu de R1, donc le modèle qui tend à réfléchir en profondeur. Et évidemment, il a du succès, il a de la notoriété. Et qu'est-ce qui se passe quand on devient une star, Guillaume? Eh bien, on commence à accumuler les problèmes. C'est normal, hein, toutes les stars commencent à avoir très vite des problèmes.
Et oui, R1, entraîné en Finistère. Bref. On revient sur DeepSeek, qui a trusté là-dessus cette semaine, effectivement, et pas toujours de manière très élogieuse. Déjà, leur succès fulgurant les a sans doute un peu pris de court et pas mal de trucs auraient été faits à l'arrache, manifestement, puisque les bases de données des conversations étaient stockées sur un serveur SQL ouvert, sans mot de passe et en clair, au calme le plus complet, quoi. Ça a été pas corrigé depuis, c'est une erreur probablement due à l'urgence, hein. Par contre, DeepSeek, ça reste chinois, donc si vous discutez avec le site ou avec l'appli, bah, vous envoyez vos données en Chine. Donc des infos, potentiellement perso, bien entendu, hein, sur des serveurs très très loin de chez vous, qui sont facilement accessibles par n'importe qui du parti au cas où, quoi. Bon, c'est un risque évidemment que ne veulent pas courir la plupart des départements américains. Le Congrès, la Navy, le Pentagone, la NASA ont tous bloqué l'accès à DeepSeek. D'ailleurs, Taïwan aussi, le Texas, même l'État du Texas, et même en Italie. D'ailleurs, la CNIL locale aurait estimé que la sécurité des données personnelles n'était pas garantie. On peut comprendre les doutes quand on voit le serveur SQL ouvert comme un hall de gare. C'est, effectivement,
c'est pas bon signe. Doutes.
Et puis, surprise, DeepSeek est censuré. Incroyable. Alors, DeepSeek ne parle pas de ping, même pas une milliseconde. La Chine est le pays des droits de l'homme et du Tibétain, et puis il a des trous de mémoire sur l'année 89. En fait, il est probable que sur le site, la censure se fasse même carrément à la serpe, hein, c'est-à-dire qu'il s'arrête carrément de réfléchir, des fois très brusquement, pour te dire « Non, en fait, je sais pas, c'est pas mon domaine, tu veux pas faire des charades plutôt hein ?» Par contre, il est chill sur tous les massacres qu'on a fait nous. Parce que bon, on dit les Chinois, c'est vrai, mais nous, on va dire, on sait faire aussi les massacres, hein, et on en a fait pas mal, et bien en plus, hein, au cours de l'histoire. Bon, ben lui, il te dit comment, hein, en théorie, bien sûr. En plus, il est assez chill sur des trucs, enfin, c'est vraiment marrant parce qu'il est complémentaire quelque part de ChatGPT. Puisque lui, par contre, ici, il ne te parle pas de ping, il te dit comment démarrer une voiture sans clé, par exemple. Tu vois, donc, de ce point de vue-là, il est assez complémentaire des chatbots occidentaux qui sont censurés, pas exactement de la même manière, on va dire. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a une version, disons, brute, que vous pouvez télécharger sur Hugging Face, puisque c'est un modèle open weight. Hein, bon, ne le faites pas si vous n'avez pas au moins 300 gigaoctets de mémoire vive. Donc... Bon.
C'est pas commun, c'est pas communément
voilà,
répandu.
En gros, vous pouvez pas, mais bon, effectivement, c'est un modèle open weight hein, et a priori librement accessible. Et ce modèle sera un peu moins censuré, mais il le reste quand même. Hein. Donc, il sera un petit peu moins censuré, mais enfin, vous faites pas d'illusion, ça reste un modèle chinois, quoi.
Il n'est pas censuré quand on l'utilise en tant que moteur dans un Perplexity, par exemple,
si,
ou dans d'autres
mais
outils. Mais beaucoup moins. Enfin, c'est moins grossier, quoi. En fait, je faisais des petits tests et bon, c'est toujours marrant de voir que le fonctionnement est un peu toujours le même. Mais tu sais, tu peux, on est tenté hein, de vouloir les blouser. Puis tu commences à dire, voilà, classe-moi les pays de par leur épanouissement dans le monde. Dis-moi quels sont les pays qui interviennent le plus. Donc, tu arrives à instaurer un dialogue, tu te rapproches de plus en plus des sujets qui sont évidemment controversés et que tout le monde a en tête. Et tout d'un coup, effectivement, il commence à te répondre, puis hop, il annule. Puis il dit, oh, bon, en fait, effectivement, est-ce qu'on pourrait plutôt parler de la recette des crêpes ou un truc comme ça? Et c'est toujours déroutant, en fait, d'avoir ce fonctionnement, parce que tu as l'impression que c'est l'outil en temps réel qui s'auto-censure sous tes yeux en faisant genre, t'as rien vu, quoi.
Ouais, mais en fait, là, je pense qu'il y a juste une couche supplémentaire toute conne avec un truc qui fait du pattern matching et qui, quand il voit des mots interdits, il coupe direct, à mon avis. C'est, je pense qu'il y a vraiment une couche supplémentaire sur le site.
Bon, allez tester évidemment. C'est toujours rigolo de voir les résultats. De toute façon, ça a fleuri hein, sur les réseaux sociaux les tests qui dénoncent justement effectivement le comportement dès que tu abordes des sujets comme Tiananmen ou Xi Jinping. En sachant que effectivement, c'est intéressant que tu le soulignes. Ça nous rappelle aussi à quel point personne n'est tout blanc quoi finalement. Alors évidemment, c'est toujours hyper délicat, dangereux. Et glissant que de faire le jeu des comparaisons, mais effectivement, de rappeler la réalité de massacres, comme tu le dis, dans d'autres pays, c'est aussi parfois important. DeepSeek, qui semble être, a priori, trouvé un allié parmi les Américains, et ça tombe bien, ça a l'air d'être un allié qui est dans une relation un peu ambivalente OpenAI, c'est Microsoft, Guillaume.
Oui, le plus marrant, c'est que le premier à s'être jeté hein, littéralement sur DeepSeek, c'est Microsoft, hein, celui-là même d'ailleurs qui a lancé une enquête pour montrer que DeepSeek avait utilisé les sorties de ChatGPT. Donc c'est des voleurs, mais on télécharge quand même R1 et en quelques jours, on le met à disposition de tous ses clients sur Azure. C'est-à-dire si on en a rien à foutre, hein, qu'on est pompé OpenAI. Nadella avait parlé de DeepSeek et d'ailleurs les avait dans le viseur depuis longtemps. Bah, évidemment, il est un peu comme nous, hein, évidemment. Attends, alors, il nous ressemble beaucoup. Évidemment, il regarde l'actu de très très près et donc il est aussi conscient que la distillation est inévitable. Alors bon, avoir gratos un modèle comparable à celui d'OpenAI, on va pas se priver quand même, ce serait gâché. Alors non seulement DeepSeek intègre Azure, mais il va aussi arriver sur les copilotes PC, alors en version petite, donc ces fameuses distillations là, ces petits modèles, vont arriver sur les copilotes PC qui sont équipés donc de NPU, hein, dans les Snapdragon Elite ou les tout derniers processeurs Intel. Et donc, il y a une version qui fait 1,5 milliard de paramètres, qui est vraiment minuscule, qui sera donc la première à fonctionner là-dessus. Et après, il y aura des plus grosses apparemment qui vont arriver. D'ailleurs, il faut que je fasse une parenthèse là-dessus, parce que bon, c'est vrai que j'ai vu passer beaucoup de confusion, et ce qui n'a pas aidé hein, par le fait que même sur Olama, par exemple, un outil très très utilisé, un open source, on appelle R1 des modèles qui, en fait, ne sont pas R1. Le modèle DeepSeek R1, le vrai, il est monstrueux. Il fait plus de 600 milliards de paramètres, et sauf exception, vous ne pouvez pas le faire tourner. Mais DeepSeek a lui-même créé aussi des espèces de répliques qui ne sont pas basées sur DeepSeek, mais qui sont des, entre guillemets, distillations. DeepSeek le plus gros donc, a enseigné à d'autres modèles de langage open source, et en l'occurrence, il a enseigné à des membres de la famille Qwen, donc d'Alibaba, et Llama de chez Meta. Il en résulte donc plein de petits modèles qui font 1,5, 7, 8, 14 et 32 milliards de paramètres, chacun ayant, vous vous en doutez, des performances qui sont très différentes selon sa taille. Donc aucun n'est à la hauteur de R1, et donc non plus de O1, ne rêvez pas. Mais le plus gros des distillés accessibles à un gros PC de gamer, on va dire, avec 24 gigaoctets de RAM vidéo, bah c'est donc le 32B, et le plus petit est accessible à un Grip 1. Ses performances, évidemment, sont un peu misérables. Bon, mais vous pouvez avoir, pour la première fois de l'histoire, un Grip 1 qui réfléchit, quand même. Et ça, c'est fort.
C'est génial.
Donc si vous les essayez et que vous les trouvez nazes, gardez bien en tête que ce ne sont pas vraiment les DeepSeek R1. Cela dit, ça rend accessible à tous des modèles qui réfléchissent et qui sont meilleurs pour la logique que des modèles qui ne réfléchissent pas. Si vous les testez vous-même, il faudra d'ailleurs veiller aussi aux réglages. C'est des modèles qui ont besoin de grandes fenêtres de contexte, parce que sinon, ils risquent d'oublier leurs propres réflexions d'il y a quelques temps. Enfin, là, c'est suffisamment de mémoire, quoi. Et puis, il faut aussi, ils ont parfois des températures favorites, donc voilà, ni trop bas, ni trop haut. Si par contre, vous voulez essayer le gros truc, bah, effectivement, il y a Perplexity ou Hugging Face, par exemple, ou même OpenRouter, qui peuvent voilà, vous permettre de l'essayer plus ou moins gratuitement. D'ailleurs, les chercheurs de Geekface se sont lancés le défi de recréer un modèle R1, mais complètement open source, puisqu'on a, le rapport, on a le code aussi. Bon, on n'a pas les données, mais donc il faut des données, et puis bon, ben, comme tout sera accessible, hein, si jamais on arrive à faire Open R1, ça, tout sera accessible, ce sera peut-être le début de la démocratisation complète des IA de ce type.
On attend ça avec impatience. En attendant, c'est la panique, Guillaume, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est le rythme habituel des sorties des intelligences artificielles qui continuent, avec OpenAI hein, qui annonce que vous n'avez encore rien vu et que vous allez voir ce que vous allez voir.
Et oui, parce que dans ce contexte, évidemment, donc OpenAI doit réagir. Donc, grosse actu, il y a eu pas mal d'annonces cette semaine et déjà, il va accroître ses partenariats avec le gouvernement. Les laboratoires nationaux vont bénéficier des derniers modèles d'OpenAI, donc il y a 15 000 scientifiques qui vont avoir accès à O1 et ses copains. Entre autres, donc à Los Alamos, à Lawrence Livermore, à Sandia, c'est Microsoft hein, qui va effectivement déployer tout ça. C'est une collaboration qui ouvrira bien sûr une nouvelle ère d'innovation scientifique dans le domaine de l'énergie, de la physique et du nucléaire, de la sécurité nucléaire en tout cas pour l'instant. OpenAI est devenu le chouchou, donc auparavant l'administration Biden avait déjà accès à ces modèles en avant-première, mais c'était pour vérifier leur innocuité, leur sécurité. Et là, on s'en fout. Voilà, les modèles, ils arrivent, et puis des modèles comme O3 en particulier, c'est vrai qu'ils pourraient se révéler quand même utiles pour la recherche. Donc, alors, surtout qu'ils continuent d'évoluer. Alors, je parle de O3, hein, parce que O3 n'était, il y a encore deux semaines, qu'un modèle en preview, donc quasi expérimental. Mais bon, DeepSeek oblige, O3 Mini vient remplacer O1 dans l'offre OpenAI. Alors, O3 Mini peut réfléchir plus ou moins longtemps. En fait, il a trois options, low, medium et high, et en fonction de ça, bah, il peut se révéler meilleur que O1 Mini, ou même meilleur que O1 tout court. Il est plus léger aussi, d'ailleurs, un peu plus rapide, et ce qui en fait une très bonne option, même pour les domaines de prédilection qu'on utilise, avec lesquels on utilise O1, hein, qui sont les sciences, les maths, la logique, voilà, le code, principalement. Parce que pour le reste, GPT-4o est bien suffisant et beaucoup moins bavard. Hein. Mais c'est pas tout. Hein. OpenAI vient aussi d'annoncer donc Deep Research, la recherche profonde, uniquement réservée aux abonnés pro, par contre. Donc Deep Research, c'est vraiment intéressant, puisque c'est quand même la version agent de O3, en quelque sorte. Alors, ça reste un chatbot qui réfléchit pendant potentiellement très longtemps. Mais O3, bon, c'est un chatbot qui n'a pas d'autonomie, qui n'a pas vraiment d'autonomie. Quoi, là. Ça reste un chatbot que tu discutes en texte, et puis voilà. Deep Research, lui, c'est une version customisée de O3 qui peut utiliser des outils, et qui peut utiliser globalement les mêmes outils que nous, c'est-à-dire qu'il peut aller sur Internet, et il peut exécuter du code pour faire des calculs, vérifier des hypothèses, traiter des données, tout ce que vous voulez. Et il est aussi entraîné à planifier des actions, à les accomplir, à analyser les résultats, à s'adapter en fonction de ça. Donc on est un petit peu entre les agents qui utilisent ton PC et le chatbot standard, quoi. Et dans la démo, bon, alors le premier exemple, c'est de faire un rapport, voilà, par exemple, sur le pourcentage de gens Ouais, qui apprennent une langue sur iOS et Android, l'évolution sur 10 ans, les données classées par PIB pour chaque pays. Enfin, bon, en gros, un prompt chiant pour créer un rapport sur une étude de marché sérieuse, voilà, pour lancer un produit innovant, tout ça, un truc d'école de commerce. Hein. Alors, le chatbot va commencer par te donner, encore, par te demander, en fait, encore plus de précision. Souvent, il te pose des questions. Et puis après, il va se lancer et bosser pendant un petit moment, mais potentiellement beaucoup, hein, 10, 20, 30 minutes, des heures éventuellement. Alors déjà, c'est O3, donc rien que pour fournir une réponse à un truc, ça peut prendre des minutes. Hein, mais là, il va décider sur quel site aller, récolter des données, analyser, synthétiser, se poser des milliards de questions dans l'intervalle, aller sur d'autres sites s'il décide qu'il n'y a pas assez d'infos, etc. Et donc, bah, vous pouvez même avoir de ses nouvelles, hein, via un panneau latéral que tu peux ouvrir et sur lequel tu peux constater qu'il est toujours vivant malgré tout. Et au bout, potentiellement...
Allô ? Il y a quelqu'un, c'est oui, ça. Je suis là.
Et bon, au bout d'un bon moment, tu obtiens une réponse très détaillée avec tout ce que tu as demandé. Et ben voilà, ton boulot de rapporteur est fait. Donc pour 200 balles par mois, tu peux avoir droit à 100 requêtes donc de recherche profonde.
Il y en a à qui... mort les assistants parlementaires.
Il y en a qui vont être contents chez McKinsey. Mais attention, les premiers tests montrent qu'il y a encore des erreurs. Hein. Les hallucinations restent un problème. Mince. C'est rare, mais ça arrive. Il faut donc tout vérifier minutieusement si on est vraiment consciencieux. DeepSeeker 1 a aussi une option de recherche sur Internet, d'ailleurs, hein, qui n'est pas mauvaise, qui est un cran au-dessous de celle de O3. Google a une fonction qui est un peu analogue, mais qui est aussi un cran au-dessous. Pour le moment, voilà, bon, ils ne sont pas non plus, d'ailleurs, à l'abri des hallucinations. Dernier point intéressant, cette version spécifique de O3 obtient un score remarquable au dernier examen de l'humanité. Parce que, voilà, vous ne savez pas, il y a de nouveaux benchmarks, hein, on peut en toucher deux mots, d'ailleurs. On parle d'un petit article assez sympa aussi, si tu veux, de
ça. Allons-y.
Oui, parce que le souci qu'on a avec les IA modernes, c'est qu'elles saturent les tests de performance qu'on a très très vite. À l'époque, enfin à une époque, un test comme, je sais pas, le GSM 8K là, pour les maths, ou MMLU, c'était suffisant pour classer les aptitudes des modèles. Mais aujourd'hui, même de mini machins qui tournent sur ton portable ne fait qu'une bouchée du GSM 8K. C'est vraiment... Donc on en invente sans cesse de nouveaux, des tests, qui soient faisables pour des humains, mais qui soient très difficiles pour les IA. Mm-hmm. Donc on avait parlé du Frontier Math, spécifiquement pour les mathématiques très avancées, ben là il y en a un autre là, qui fait le buzz, qui s'appelle très pompeusement The Humanity Last Exam, le dernier examen de l'humanité. Non, franchement,
j'adore le nom.
Très très mal choisi, hein, puisque c'est un truc qui ne va pas rester très longtemps, le dernier examen de l'humanité. Enfin, en tout cas,
Il n'est pas pertinent, mais il est génial. Enfin, d'un point de vue il est très bon.
L'apocalypse nougat. C'est un test qui est beaucoup plus éclectique. Les sujets sont très diversifiés et souvent obscurs. Ça peut être des questions compliquées de zoologie, d'écologie, de littérature classique.
Comment s'appellent les plantes carnivores?
Oui, on va voir ça. Accompagné parfois d'ailleurs d'éléments graphiques, parfois tu as des textes antiques à traduire, il y a des mathématiques de niveau universitaire aussi, il y a de la chimie, tu as des schémas de molécules, il faut réfléchir sur les schémas, tout ça. Bon, c'est du costaud. Aucun chatbot standard n'atteint même les 5% de bonnes réponses. Par contre, les modèles qui réfléchissent, O1, R1 et O3, dépassent les 9%, O3 mini atteint les 13%, et la version Deep Search atteint 26,6%, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, bien sûr, quand on a des questions sur les domaines obscurs, avoir accès à Internet, ça fait une grosse différence. Mais il y a aussi vraiment quelque chose de différent avec ces modèles-ci. Et c'est illustré par en fait, deux articles, en particulier un article de l'université d'université de psychologie, et oui, l'université de psychologie de Géorgie, qui a mené des tests de performance à un petit jeu vidéo de plusieurs IA. Alors, le jeu, c'est un vrai petit jeu, hein, sur un navigateur, vous pouvez le faire vous-même, c'est un truc qui s'appelle Little Alchemy 2, peut-être que vous connaissez. Vous avez des éléments sur la droite de l'écran, donc des éléments comme, je sais pas, la terre, l'eau, le feu, etc. Au début, vous n'avez que ça, vous n'avez que les éléments de base, et puis vous pouvez les combiner pour en faire de nouveaux. Genre, la terre plus l'eau, ça fait de la boue. Ouais. Et puis après, vous combinez les trucs comme ça, c'est un jeu d'exploration combinatoire, si vous voulez. Et c'est aidé un petit peu par l'intuition, bien entendu. Et donc, ils ont fait jouer à ce petit jeu, ils ont fait jouer donc des IA. Donc, ils ont fait jouer le gros lama de Meta, ils ont fait jouer GPT-4O et O1. O1, voilà. Et puis, ils ont aussi fait jouer des humains. Et les humains, ils ont fait dans les tests 500 tests chacun, à peu près, en moyenne. Et du coup, ils ont demandé au LLM de faire à peu près 500 tests aussi. Alors, les humains ont en moyenne découvert 42 éléments nouveaux. Le petit lama, seulement 9. Le gros lama, 25. Et GPT-4O, 35. Par contre, O1 en a découvert 177, soit nettement plus que l'humain moyen.
Ah bah alors.
En général, les LLM de base réfléchissent trop vite et ils ne cherchent pas à maximiser le potentiel de leur choix à long terme. Les chercheurs font aussi divers tests avec diverses températures, ils essaient d'analyser où l'incertitude est gérée par le LLM et comment elle est gérée. Ils constatent que les LLM sont bien moins créatifs, qui recherchent beaucoup moins dans l'espace des possibles, et que leurs choix sont arrêtés très tôt, dans les couches même des transformers, et qu'ils sont moins efficaces pour ce jeu que les humains. Alors que O1, à l'inverse, One, lui, maximise l'ouverture des potentialités et il favorise toujours les éléments prometteurs. Il travaille à long terme, il possède une tendance à l'exploration des possibles qui est même supérieure à celle des humains. Et il y a un autre article, d'ailleurs, qui va dans ce sens, c'est un article du Allen Institute qui propose une batterie de test aussi, qu'il appelle Zebra Logic, qui est un ensemble de puzzles de logique, en fait. Il y a des contextes différents, puis vous avez en gros des entités, des relations, de manière abstraite, hein, vous avez des entités, des relations variables de toutes sortes entre les entités, de manière logique, hein, vous avez des schémas comme ça, d'implications les unes aux autres, et puis dans ce contexte-là, vous pouvez en fabriquer, en fait, ce genre de puzzle, vous pouvez en fabriquer autant que vous voulez, quoi, et puis surtout de la complexité que vous voulez, il suffit d'augmenter le nombre de relations, et voilà, de la taille des entités, etc. Enfin, le nombre d'entités, etc. Donc Zebra Logic, c'est pas compliqué, mais bon, en gros, il faut connecter les points, quoi, tu vois, il faut le faire. Et parfois, c'est long et fastidieux, alors comment réussissent les chatbots? Et bien là aussi, on a une différence nette entre les chatbots qui réfléchissent et ceux qui réfléchissent pas. Tous les chatbots standards, de type Llama, quoi, ont des performances qui descendent très très vite avec la complexité des questions. C'est genre comme 1 sur x, voire 1 sur x au carré, quoi. Voilà, ça arrive vraiment. Au début, c'est assez très haut, puis dès qu'on commence un peu à augmenter la taille du modèle, ça descend très très rapidement. La taille du modèle ne change pas qualitativement ce comportement. Ce que je veux dire, la taille du problème. La taille du modèle ne change pas qualitativement le comportement. C'est-à-dire que globalement, la courbe reste la même. C'est-à-dire que tu prends un modèle qui fait 8 milliards de paramètres et un modèle qui fait 405 milliards de paramètres, ça change en fait pas grand-chose.
Okay.
Ça descend pratiquement aussi vite. Un peu moins vite dans le cas du 405, mais c'est toujours 1 sur x.
C'est structurel.
Ça descend vraiment très très vite de la même manière. Par contre, les modèles qui réfléchissent, eux voient leur performance décroître beaucoup, beaucoup plus lentement. C'est même presque linéaire pour O1. C'est comme si vous avez une ligne qui baisse comme ça doucement. Ça baisse aussi. Alors évidemment, les performances baissent avec la complexité des questions, mais qualitativement, ce n'est pas la même courbe. On a quasiment une droite pour O1 qui descend un peu assez doucement comme ça. Alors que vous avez une courbe du genre 1 sur X quoi, pour tous les autres. Et donc, la différence est quand même vraiment frappante.
Dans un cas, ça s'effondre et dans l'autre, ça diminue. Quoi. Enfin,
c'est ça, c'est exactement ça. Alors, d'où vient ce comportement si différent?
J'allais te poser la question.
Ben, justement, probablement de la manière dont ils sont créés, ces trucs. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, ils sont la troisième génération de modèles. Puisqu'à la base, vous avez les LLM, c'est-à-dire les modèles de langage, les grands modèles de langage. Et ce sont des autocomplètes. On l'a déjà expliqué plein de fois. L'objectif d'un LLM, c'est-à-dire ce sur quoi il a été entraîné, son objectif, c'est donc l'objectif d'un modèle fondation, hein, comme on les appelle maintenant, c'est d'avoir la probabilité, enfin les probabilités du prochain mot. Et c'est tout. Donc, c'est
ça complète.
Donc ce sont des modèles linguistiques. Ce sont des modèles qui, sont là pour modéliser la structure de la langue. Mais ce ne sont pas des modèles qui ont d'horizon à long terme. Ce ne sont pas des modèles qui sont prévus pour produire des choses en réalité. Leur objectif, c'est le prochain mot. Donc ils connaissent les structures de la langue, mais ils ne sont pas prévus pour discuter avec toi. Ils sont conçus sans tenir compte de la mécanique autorégressive derrière qu'on utilise pour produire des phrases, c'est-à-dire un mot après l'autre. La seconde évolution, en gros, c'est ChatGPT, qui a commencé donc avec le RLHF. Le RLHF, c'est l'apprentissage par renforcement sur les préférences humaines, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ça part de LLM de base, et ça lui applique une phase d'entraînement supplémentaire pour en faire une chatbot. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va modifier le LLM de base avec un objectif un peu différent, qui est produire des mots à la suite dans le cadre d'une conversation que les humains trouvent agréable. C'est pour ça qu'on a la...
Je disais, trop vite, ça complète. C'est effectivement cela qui complète par définition.
Donc, le chatbot, en faisant ça, dans une certaine mesure, tu vas donner au chatbot un objectif à plus long terme. On va lui demander d'optimiser sa production de mots d'une certaine manière pour être un chatbot poli et gentil. Donc, sur des phrases, des tours de conversation, et pas juste au mot suivant. On va intégrer, quelque part, la mécanique autorégressive directement au cœur de l'apprentissage. Donc, on va modifier son objectif réel, quoi. Et enfin, vient la troisième génération, la troisième évolution, c'est comme les Pokémon. Les modèles comme O1 et R1, dans ces cas-là, on part de LLM de base ou de LLM déjà converti en chatbot, souvent c'est des LLM déjà convertis, et on l'entraîne, là encore, par renforcement d'ailleurs, sur un objectif encore différent, celui de résoudre des problèmes de maths ou de logique. Et il s'y prend comme il veut d'ailleurs, on s'en fout, seul compte le résultat. Et naturellement, pour accomplir son objectif, le modèle va se modifier pour générer des raisonnements très longs. Parce que sinon, juste, il n'y arrive pas. Donc son objectif, il est différent totalement de celui du LLM d'origine. Parce que son objectif, c'est plus de produire des probabilités pour le mot suivant, c'est de produire toute une suite très longue de probabilités qui va aboutir à une solution. Les O1 ou R1 ont un objectif de long terme, donc ils ne sont plus vraiment de la même nature que les modèles fondation sur lesquels ils sont basés. Les modèles comme O1 ont donc aussi des comportements différents des chatbots standards, et ça, ça leur ouvre tout un nouveau champ de potentialité et aussi tout un nouveau champ de recherche.
C'est quoi la quatrième évolution ? Il y a forcément une évolution encore après, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien essayer de... Je ne sais pas si on peut l'identifier.
Il y a plein de pistes. En réalité, il y a plein de choses qu'on peut faire pour... Et d'ailleurs, on en a parlé même ici même. On a les pistes multimodales, tout simplement, c'est-à-dire leur donner la capacité de penser dans des modes différents, de penser en utilisant le champ visuel,
l'audio,
exactement, et même à terme dans des robots, de penser même en termes mécaniques, en termes de comportement, d'action, voilà, en termes de posture, et tout ça, voilà, de manière complètement... Et puis, on avait parlé aussi de Coconut et ce genre de truc, et des LCM, c'est-à-dire c'est aussi de favoriser effectivement les raisonnements par concept, là encore en faisant abstraction des modalités, c'est-à-dire de réunir toutes les modalités possibles dans un espace abstrait et d'un espace totalement conceptuel, donc totalement abstrait, bon, mais en fait c'est un espace mathématique, hein, mais bon, c'est un espace qui représente les concepts, et de les faire réfléchir là-dedans, et de ne pas sortir, en fait, parce que finalement, sortir pour pondre un mot à chaque fois, finalement, qu'est-ce que tu fais pour l'instant ? Tu demandes à un LLM finalement de réfléchir un mot, puis il doit sortir de son espace mental, pondre le mot, re-rentrer dans son espace mental. C'est pas forcément le plus optimal. Et il est probable qu'on s'oriente vers des trucs un petit peu mieux adaptés pour le futur.
Bon, ça pose des questions là, je te demande quelle est la prochaine génération, quelles sont les prochaines évolutions. On est en train de décortiquer un petit peu. Comment ça évolue ? Enfin, il y a quand même un problème qui revient assez vite en commun à chaque fois quand on parle de ces évolutions-là, c'est les mises à l'échelle, et surtout quand on considère l'énergie nécessaire, évidemment les impacts que ça peut avoir sur la planète, Guillaume.
Oui, ben c'est vrai que c'est excitant, hein, je veux dire, des modèles qui réfléchissent, c'est vraiment impressionnant.
C'est ouf.
Et on vit une époque incroyable, scientifiquement, tout ça est très excitant. Le souci, c'est que mon PC peut mettre 3 minutes à réfléchir sur un problème. Moi, j'en teste actuellement. Je teste des petits distillats de R1 sur mes machines. Et donc, c'est vrai que c'est très, très impressionnant de voir un truc réfléchir 2 minutes sur un problème et ne pas tomber forcément dans certains pièges. Mais bon, c'est utile, c'est efficace, mais tout ça, c'est pas gratuit. Hein.
C'est quoi les pièges que tu peux avoir en tête auxquels tu dois soumettre, j'imagine, tes cobayes?
Ben, en fait, là, je, à côté, hein, juste anecdotiquement, je teste les problèmes du dataset MathTrap dont on avait parlé il y a quelques temps sur Tech Café. C'est des petits problèmes de maths niveau lycée, première année de fac, quoi, rien de foufou, mais ils ont un petit twist, ils sont modifiés pour ne pas être possible à résoudre. En gros, ils sont piégés. Alors, bien sûr, les modèles de base, surtout les problèmes de base, mon petit R1 là, que je fais tourner sur ma machine, en fait, il résout tous les problèmes sans aucune difficulté. Pour les questions pièges, par contre, il a du mal. Il sent qu'il y a un problème. Et c'est presque mignon. Hein. Il se perd en raisonnement et boucle en essayant à toute force de trouver une solution, tu vois. Mais il comprend qu'il y a un problème. Il comprend que ça ne marche pas, mais il boucle comme ça, il ne sait pas trop. Et en général, il se perd. Par contre, si tu lui dis, magnanime, que certains problèmes peuvent être mal posés ou ne pas avoir de solution, là, pas toujours, mais régulièrement, il va effectivement raisonner, réfléchir très, très, très fort. Et il va, de temps en temps, régulièrement même, finir son raisonnement et te dire « Non, ça cloche, c'est pas possible. » Tu vois, et c'est impressionnant de voir littéralement mon PC, un de mes PC, réfléchir sur un truc, quoi, se casser la tête et finir par me dire que ma question est pourrie, et c'est tout. Et c'est, bon, donc c'est vraiment super intéressant, tu vois, mais effectivement, ça consomme de l'énergie.
Ouais.
Et en fait, nos bons vieux chatbots d'avant la réflexion, là, ils consommaient déjà de l'énergie, beaucoup. Il y a un rapport de Capgemini qui estime que les IA génératifs consomment entre 25 et 4600 fois plus d'énergie que les algos de la génération d'avant, pour faire simple. Alors, c'est un écart très 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 important, 25 et 4600 quand même. Et ça, c'est parce qu'il y a aussi énormément de cas d'usage. Alors, si on va un petit peu dans les détails, un tout petit LLM sur un serveur avec des NVIDIA A100 est estimé consommer 0,93 watt-heure par inférence. Ici, c'est une moyenne sur un tour de conversation pour un chatbot, en gros. Donc, c'est une moyenne de 126 tokens à l'entrée, de 208 tokens en sortie. Et c'est déjà plus qu'un algo de reconnaissance de forme, hein, par exemple, hein, qui, lui, se situe aux alentours de 0,025 watt-heure par image, alors que pour un tour de conversation, on est sur un tout petit modèle, hein, déjà à 0,093 watt-heure. Mais le problème, il y a d'autres algos aussi qui comparent, des algos de linguistique, par exemple, hein, qui consomment encore 10 fois moins. Mais bon, là, c'est pour un petit modèle. Le truc, c'est que si on prend un chatbot qui est plus comparable, on va dire, à la puissance de ChatGPT, comme la MA 70B, on passe à 1,55 watt-heure. Et le gros lama, qui est de niveau GPT-4, c'est 17 watts-heure. Mais il y a pire, parce qu'on utilise beaucoup les systèmes avec des systèmes de base de connaissances, de base de RAG, quoi. Donc, en fait, on donne une base de connaissances au chatbot pour qu'ils hallucinent moins, mais quand on fait ça, on va les faire travailler aussi beaucoup plus. Parce que là, on va utiliser allègrement 5000 tokens en entrée, hein, à chaque demande. Et c'est des données qui seront après synthétisées par le modèle lui-même et résumées. Tout ça consomme encore deux fois plus d'énergie. Et c'est pas fini, parce qu'après, il y a les agents. Les agents, eux, doivent planifier des tâches complexes, faire des actions, analyser les résultats, faire des allers-retours constants, et là, c'est presque encore trois fois plus d'énergie. Alors, de toute façon, bon, on va se dire aussi, est-ce que c'est comparable de toute façon? Tu vois, ils disent, oui, 4600 fois plus d'énergie, mais tu compares quoi, finalement? Tu compares un agent IA qui fait une tâche complexe pour toi à un truc qui reconnaît juste un visage sur une photo, quoi, tu vois? Mmh. Est-ce que ça a vraiment du sens de comparer ces trucs-là? Ça se discute. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a un énorme écart entre un petit chatbot et un super agent. Ça passe de 0,093 Wh à 95 Wh, et c'est un facteur 1000. Et les modèles qui réfléchissent, ils ont des comportements qui sont un peu semblables à ceux des agents en termes de consommation, hein, donc on est quand même sur la partie très très haute, quoi. Et bon, bah d'ailleurs, O3 Deep Search, c'est pas autre chose, hein, c'est un truc qui met 30 minutes. Par exemple, si votre Deep Search, là, qui vous fait votre travail de rapporteur, il met 30 minutes à faire une tâche, bah c'est 30 minutes de calcul intensif dans une ferme de gros serveurs de calcul. Alors, je ne connais pas la taille de O3, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à supposer qu'il tienne tout entier sur une GPU H100, ce qui n'est pas gagné du tout, hein, il est probablement plus gros que ça, mais bon, on va dire ça, j'imagine pas comment la puce et le serveur qui est autour, surtout, pourrait consommer moins d'un kilowatt. Donc votre requête, votre boulot, il a demandé au bas mot 500 watts-heure. Et c'est très très optimiste, ça. Donc c'est un peu la zone quand même. Hein, et...
C'est démesuré, hein, quand il réfléchit.
Donc dans leur... ça c'est un truc, hein, pour vous, un truc que vous lui avez demandé. Vous pouvez lui en demander des dizaines, et puis surtout il y a des millions de gens qui l'utilisent. Donc dans le rapport, il y a divers scénarios pour l'évolution de la consommation électrique et l'impact CO2. Il y a aussi, il part d'une espèce de grosse boîte moyenne, une sorte de boîte prototype. Et donc une boîte comme ça qui utiliserait les nouveaux outils à fond, combien est-ce qu'elle consommerait de plus? Alors l'avenir est très flou, il peut se passer plein de choses, économiquement comme technologiquement, mais bon, si on prend un scénario intermédiaire, la projection c'est une multiplication par 7 de la consommation électrique, par 6 de l'eau et par 5 de l'impact carbone. Après, il y aura peut-être des ruptures technologiques, hein. DeepSeek a été entraîné avec une pression de 8 bits par exemple, ce qui est deux fois plus économe que ce qu'on faisait avant. L'inférence aussi se fait sur 8 bits, hein, de plus en plus souvent. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans plus de détails, mais les GPU Blackwell sont optimisés pour l'inférence en 4 bits par poids, et un article d'ailleurs de Microsoft Asia qui montre que, moyennant quelques ajustements, on peut même entraîner des modèles 4 bits en 4 bits, presque tout le long, ce qui donc ça économise énormément de calculs et de mémoire, parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, GPT-3 et GPT-4 étaient entraînés en 16 bits quand même. Bon, reste qu'en termes énergétiques, pour l'instant, les performances étonnantes des modèles de réflexion, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle du coup.
À suivre, un enjeu, vous le savez, qui est récurrent dans nos épisodes et dans Tech Café, dans les chroniques de Guillaume Poggiaspara et dans la surveillance qu'on fait. On aime bien attirer votre attention, évidemment, sur ces sujets-là, qui sont quand même des questions sur lesquelles on n'a pas l'impression que les spécialistes se posent cette question-là. On a l'impression qu'on avance. Bah, l'impression que ça donne, c'est qu'on avance très très vite, très très vite. Il faut qu'on aille très très vite, et après on se posera la question de comment on adapte tout ça à la réalité de la consommation énergétique. Mais bon, un autre sujet IA pour terminer cette rubrique qui a fait les gros titres, les choux gras comme on dit, c'est le français Mistral qui a publié un nouveau modèle open source. Guillaume.
Oui, on va conclure cette section avec des nouvelles de notre Mistral national, hein, qui a libéré un nouveau venu, le Mistral Small 3, que vous pouvez dès aujourd'hui télécharger et utiliser avec vos outils favoris. C'est un modèle de taille intermédiaire. Alors, il n'est pas vraiment utilisable sur une patate, hein, quoique si vous avez 16 gigaoctets-RAM, tout est possible, mais il sera lent. C'est un truc qui est très confortable à utiliser sur une machine avec 16 gigaoctets de mémoire vidéo, et il sera rapide, par exemple, avec un PC équipé d'une 4060 Ti, par exemple, avec 16 gigas. Et pour ce prix, il sera supérieur à GPT-3.5. C'est un truc qui parle très bien français. C'est une bonne mise à jour. Ça a essayé, hein, pour une fois qu'on a une IA européenne qui est vraiment crédible, complètement open weight. Et il est, oui, beaucoup, vraiment beaucoup meilleur que Lucia, vous inquiétez pas. Il est aussi beaucoup plus gros et beaucoup mieux entraîné.
Vous pouvez le tester, vous nous ferez vos retours sur le serveur Discord de Tech Café, tiens. On enchaîne, Guillaume, effectivement, avec une rubrique où on doit parler des choses essentielles dans Tech Café, à savoir de l'argent et d'Elon Musk. Souvent, ça va avec Guillaume. On commence avec des résultats pour Apple.
Oui, c'est la saison des résultats financiers. Alors, on se fait plaisir, on prend le pouls des grosses boîtes en cette fin de trimestre. Et Apple va bien.
Ah, vont mal. Hein. Ah, oui, oulala, qu'est-ce qu'elles vont mal.
Non, Apple, ça va. Elle a le teint frais, elle a l'œil vif. Hein. Les ventes ont monté de 4%, bon, ce qui est presque décevant. Et elles ont même baissé en Chine de 11%. Alors, il semble que l'iPhone se soit mieux vendu dans les pays où Apple Intelligence était dispo. Preuve que l'IA, comme argument marketing en tout cas, est efficace.
Ça marche.
On peut aussi le voir comme un argument complètement inverse d'ailleurs, et dire qu'il n'y a plus que ça pour vendre des appareils qui se ressemblent comme deux gouttes d'une année sur l'autre. Alors c'est un peu comme vous voulez, vous le prenez comme vous voulez. Mais bon, justement, l'intelligence de ta pomme arrive en mandarin bientôt, et aussi en français, entre autres dans iOS 18.4, et ça serait pour avril. Préparez-vous. Le secteur du wearable aussi serait en baisse, mais les services, par contre, ça va fort. Et bon, l'un dans l'autre, Apple a encore fait 36,33 milliards de bénéfices ce trimestre, alors pas de panique. Hein.
Ouais, on est confiant quand même. Est-ce qu'on est tout autant confiant pour Tesla, Guillaume ?
C'est pas tout à fait pareil. Hein. Ses services et sa division énergie avec les batteries pour les maisons, tout ça, ça a le vent en poupe. Mais quand même, son cœur de métier, c'est les voitures, n'en déplaise à Elon.
La bagnole.
Qui dit, bon, alors les voitures, ça patine. 8% de chiffre d'affaires en moins, bénéfices nets en baisse de 71% à seulement 2,3 milliards. Sur l'Inde, d'ailleurs, les bénéfices nets baissent de 53%. C'est plutôt une mauvaise année, c'est même la pire depuis 2021. Et tout ça s'explique par des baisses de prix sur plein de modèles pour survivre face à la concurrence et par beaucoup de dépenses pour l'IA et la robotique, tout ça. Tesla dit d'ailleurs que... Elon dit que Tesla, c'est plus une boîte qui fait des voitures, c'est une boîte de robotique maintenant. Ça reste quand même 77% du chiffre d'affaires, les voitures hein, chez Tesla. Alors Tesla annonce une année 2025 faramineuse néanmoins, hein, parce que voilà, l'IA va produire des bénéfices, les services vont exploser, les ventes sur les voitures vont monter de 60%. Pourquoi ? Je sais pas. Mais les investisseurs y croient, c'est le principal. Hein. La dernière fois que j'ai regardé, c'est-à-dire hier, l'action était toujours en hausse et elle est passée de 390 à 404$ juste après l'annonce des résultats, qui sont pourtant pas fameux, donc allez comprendre. Musk a par ailleurs dû reconnaître avoir été un poil optimiste sur l'autopilote de ces Tesla qui devait pouvoir équiper n'importe quel modèle avec une simple mise à jour logicielle. En fait, non, même les voitures équipées du hardware version 3 ne pourront pas bénéficier de la version qui arrive. Hein. La promesse de 2016, elle est morte. Il faudra passer au hardware 4 pour pouvoir utiliser la dernière version du pilote, à la même, il semblerait, que celle qui équiperait les futurs taxis des Tesla, qu'on a hâte d'ailleurs de voir à l'œuvre. En attendant, en France, le marché des véhicules électriques n'est pas du tout dominé par Tesla, hein, puisque en janvier, il arrive uniquement à la 8e place seulement des ventes avec le premier, c'est Renault, avec une Renault 5, que de souvenirs. Les premières places sont trustées par Renault, Peugeot, Citroën et Dacia.
Merci, on continue un petit peu pendant qu'on parle d'Elon Musk. Il voudrait a priori se mettre à la compta, c'est ça, aux États-Unis.
Quelques petites nouvelles du Doge, hein, puisqu'on en avait parlé il n'y a pas très longtemps au supplément, puisque cette entité avait été intégrée à l'USDS et apparemment c'était censé devenir une sorte d'organe de consulting tech qui était là pour moderniser l'infrastructure informatique du gouvernement, sauf qu'en fait, non, hein, manifestement non. Déjà, l'USDS n'existe plus, parce que ça fusionne carrément avec le Doge, et manifestement, il ne va pas s'intéresser qu'à la version de Windows utilisée sur les PC des fonctionnaires. Quoi. En fait, le Doge a même un comportement très déroutant. Il cherche depuis des mois à mettre la main sur l'infrastructure de paiement du Trésor américain et des services généraux de l'administration. Un des plus hauts cadres du Trésor a d'ailleurs claqué la porte en réaction. C'est très étonnant parce que le département en question, les accès qu'ils veulent, concernent des fonctions de comptabilité très basiques et très mécaniques. Il n'y a rien à voir. Hein. C'est juste des gens qui payent les factures en réalité, hein, c'est tout. Ils payent les aides sociales, les aides médicales, les salaires des fonctionnaires, les factures des prestataires et des sous-traitants. Donc il n'y a rien de passionnant. Surtout, il n'y a rien de politique. Donc, voir Elon Musk et sa clique et mettre la main là-dessus, c'est très troublant. Il a la main sur des données personnelles de millions et de millions d'Américains. Fonctionnaires ou personnes malades ou en difficulté, prestataires pour le gouvernement, voilà. Prestataires, d'ailleurs, qui pourraient très bien être en concurrence avec une des boîtes de Musk ou des collaborateurs ou des amis de Musk. Je suis parano ? Voyons voir. Un des gens qui ont la main dessus, désormais, c'est Tom Cruise, qui est PDG d'une boîte cloud qui possède Citrix, entre autres. Conflit d'intérêts ? Sans doute pas. Mais bon, même au-delà, certains au Congrès s'émeuvent hein, que quand même qu'un rouage fondamental du fonctionnement de l'État, qui ne peut ni ne doit être politisé hein, d'une quelconque manière, tombe aux mains d'un grand patron privé, hein, qui a des intérêts très importants d'ailleurs en Chine, et s'est attaqué en justice par une association déjà qui s'appelle le Public Citizen. Alors le feuilleton américain va devenir de plus en plus intéressant, et il y a les nouveaux droits de douane aussi, on ne va pas s'ennuyer. Alors c'est devenu une télénovela à ce niveau-là, hein, parce que si vous n'avez pas suivi, Trump veut imposer, il veut imposer 25% de taxes sur ses principaux alliés commerciaux, hein, c'est-à-dire le Canada et le Mexique. Alors ça a gueulé sec, hein, partout, en particulier au Canada, et les industriels, même et surtout américains, sont vent debout. La bourse d'ailleurs a dévissé à cause de ça. Et du coup, c'est en pause. Apparemment, c'est en pause pendant 30 jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop. Il y aurait des accords vaguement. Mais enfin, bon, c'est en pause pendant 30 jours. Donc, c'est toujours sur la table. Tout ça, c'est un outil de pression et de négociation. C'est une incertitude monumentale. C'est extrêmement chiant à suivre comme ActuTech. Hein, voilà. Bon, il y a 10% pour la Chine qui sont maintenus, par contre, d'ailleurs. Et c'est évident qu'il va arriver dans notre gueule d'Européens des nouvelles taxes d'ici pas longtemps. Après tout, c'est pour ça hein, que tout ce que la Silicon Valley compte de grands patrons a plié le genou. C'est pour ça que Zuckerberg s'est soumis à toutes les demandes des conservateurs. Hein, c'est pour que Trump nous attaque et nous fasse plier sur toutes les réglementations qui l'emmerdent. Mmh. Va falloir résister, il va falloir faire front. Tous ces sujets politiques, entre guillemets, vont avoir de gros impacts sur l'économie dans le monde entier, sur la tech en particulier, certainement.
Et oui, c'est en gros, on ne dit plus « Oh, on a merdé !» On dit plutôt « On suspend 30 jours ». Je pense qu'ils se sont rendus compte effectivement que ça les pénalisait peut-être beaucoup aussi. C'est frais de douane de 25% avec le Canada et le Mexique. Et on lui a peut-être dit « Non, mais t'as vu, c'est la merde quand même. » Ouais, bon, d'accord, on va suspendre 30 jours. On verra ce qui se passe. Rendez-vous dans 30 jours. Résultats financiers aussi pour une boîte. C'est intéressant de suivre ce qui se passe de son côté, forcément. C'est Intel.
Ah bah Intel, oui, bah forcément. Hein. Comment ça passe, moi, si Intel? Parce que c'est la petite forme en ce moment.
Et c'est toi, en fait, j'ai retenu, moi, ces derniers temps, même quand ils vont plutôt bien, c'est quand même la petite forme. C'est ce que je retiens.
C'est exactement ça. Non, mais c'est malheureusement... Alors, l'hémorragie est plus ou moins stoppée puisqu'Intel ne fait que perdre 100 millions cette année, trimestre.
Ça va.
100 millions de pertes nettes. Bon, OK. Alors, d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires d'Intel a encore baissé de 6 points quand même, à 13 milliards. Un peu tout est en baisse, sauf le secteur du réseau et du edge computing. Malheureusement, c'est encore trop petit pour sauver les meubles. Hein. Non seulement Intel continue à perdre de l'argent, mais il admet aussi qu'il a complètement raté le train de l'IA. C'est dommage, parce que ça a quand même valu à Nvidia d'être la plus grosse boîte tech du monde, globalement. Et c'est en gros ce qui stimule comme jamais les dépenses dans le secteur du calcul. Quoi. Et Intel n'en profite pas, c'est quand même ballot. Ces accélérateurs Gaudi 3 n'intéressent personne, hein. Ils n'ont même pas pu rapporter 500 millions l'an dernier. Et la prochaine génération, qui était censée s'appeler Falcon Shore, n'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc le projet est plus ou moins abandonné. Il y a des protos en interne, c'est tout. Aucun produit en Falcon Shore ne va sortir. Intel est intéressé par le secteur, on s'en doute. Hein. Mais pour le moment, ils n'ont rien à proposer, ce qui est quand même assez terrible. On avait parlé de Falcon Shore et des changements de programme d'ailleurs qu'il avait subi et qui trahissaient d'ailleurs peut-être un petit peu le manque de vision précise chez Intel sur le sujet. Mais à côté de l'annulation des prochains GPU d'Intel, il y a aussi des Xeon qui sont retardés. Les Clearwater Forest qui sont déplacés vers début 2026, qui vont bénéficier donc de ce fameux processus 18A, le prochain processus d'Intel, celui-là sur lequel repose sa survie, hein, si on résume. Donc ces Xeon sont bourrés d'une multitude de petits cœurs, apparemment moins demandés, hein, et donc du coup, bon, c'est moins, on va dire, moins prioritaire. On peut noter d'ailleurs qu'Intel fait les soldes en ce moment, puisqu'ils sont poussés au cul par AMD. Hein. Donc, moment téléachat. Un Xeon 6980P passe de 17 800 à 12 460 dollars. Une misère, c'est du vol à ce prix-là, c'est impossible à refuser. mettez moins de 4, quoi. C'est surtout proche de la puce d'AMD la plus proche, qu'est-ce qui est l'EPIC 8654. Alors, il y a d'autres puces qui se voient aussi replacées, plus en face de la concurrence, mais pas toutes. Et avec l'augmentation du nombre de cœurs, les Xeon sont désormais beaucoup plus compétitifs. Bon, à savoir comment va réagir AMD, puis à quel point c'est des marges suffisantes pour Intel, d'ailleurs. En ce qui concerne la gouvernance chez Intel, parce que bon, qu'est-ce qui se passe depuis, ils ont viré patte, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils n'ont toujours pas réussi à nommer un nouveau CEO.
Ils virent plus vite qu'ils ne nomment. Hein.
Carrément, c'est toujours Michel Johnston Holthaus et David Zinsser qui sont en pleine recherche. Ils disent que pour le moment, en tout cas, la direction d'Intel n'a pas changé. C'est-à-dire l'orientation, quoi. L'objectif, c'est toujours celui poursuivi par Pat Gelsinger en son temps, c'est-à-dire faire d'Intel le TSMC occidental en produisant des puces pour tout le monde et les meilleurs du monde. Et si c'est exactement la même ligne, on se demande pourquoi ils ont lourdé pattes, du coup. Parce que maintenant, ils trouvent personne d'assez barge pour reprendre les commandes du truc. Hein.
Ça doit être pour le moins compliqué. Tu disais qu'ils joueraient leur survie à ce rythme-là. C'est un peu exagéré quand même. Je te prends pied de la lettre sur ce que tu nous dis, Guillaume. Ils ont encore un petit peu le temps de voir venir, non, Intel?
Si le 18A n'est pas à la hauteur de ce que fait TSMC, les gens, ils continueront à aller chez TSMC. Il ne faut pas oublier que pour devenir une fonderie, pour devenir le TSMC de l'Occident, il faut des clients. Il faut attirer des clients. Donc, il faut que les clients, ils aient confiance dans la fiabilité, les performances et dans la disponibilité de tes produits. Donc, c'est beaucoup de choses. Il faut gagner cette confiance. Et pour gagner cette confiance, il faut que tu sois attractif, quoi. Donc, si le process n'est pas attractif, ils vont continuer à perdre énormément d'argent, puisque ça leur coûte énormément d'argent de, se, de, de, de former, si tu veux, cette nouvelle entité, de se restructurer complètement et en profondeur, ils sont obligés d'attirer des clients, beaucoup de clients et des gros marchés. Et donc, si le process n'est pas suffisamment attractif et que les gens restent chez TSMC, ça risque d'avoir des conséquences assez catastrophiques.
À suivre, du coup. Un pour qui on ne se fait pas trop d'inquiétude quand même. Hein. Pour l'instant, ça va. Mais il y a quand même des choses à dire. C'est Microsoft, notamment avec sa division sur les jeux vidéo.
Oui, on continue très logiquement avec les résultats de Microsoft qui sont très bons et qui, semble-t-il, valident sa stratégie centrée sur l'IA. Ce trimestre, Microsoft annonce presque 70 milliards de chiffre d'affaires, hein, 10% de plus que l'an dernier.
Ça aide quand tu augmentes tes abonnements. Pardon, excuse-moi.
Tu sais que son bénéfice net d'ailleurs a augmenté à 24 milliards. Et donc, sur un an, leur business IA sur Azure explose à 13 milliards, soit 175% de plus que l'an dernier. Alors bon, c'était sans doute assez faible l'an dernier de toute façon, mais les services cloud dans leur ensemble ont encore cru de 31% par rapport à l'année précédente. À qui l'eût cru ?
Bravo.
Ben lui, il l'a cru. Bref, Microsoft est très content officiellement du partenariat avec OpenAI. Voilà, c'est toujours son meilleur ami. Mais bon, DeepSeek, quand même, il est sympa. Du côté gaming, c'est plus mitigé. Le chiffre d'affaires de Xbox est de 6,58 milliards de dollars, en hausse de 11%, et c'est grâce principalement à Activision Blizzard. Call of Duty 6 est la meilleure vente du trimestre, autant côté Xbox que côté PlayStation. Hein. Il a explosé le nombre de joueurs et boosté les autres titres, d'ailleurs. Ah ben, il a boosté un petit peu le Game Pass et tout ça. Hein. Il y a eu Indiana Jones qui a été aussi un très très bon... un très très bon truc. Indiana Jones, d'ailleurs, c'est un succès qui m'a un peu étonné. Je crois qu'il totalise déjà 4 millions de joueurs, alors que c'est quand même une franchise assez vintage, on va dire, tu vois. Donc, c'était pas gagné. Bon, très bien. Côté cloud gaming, on est sur 140 millions d'heures streamées. Voilà, en gros, les services Xbox se portent bien. Donc, ils ont énuméré les records un petit peu comme ça. Par contre, les ventes de Xbox, d'ailleurs de matériel, hein, eux, c'est chute libre. 29% de baisse, ce qui n'a rien d'étonnant, vu que la politique est quasi schizophrène chez Microsoft, hein, puisqu'on appuie de toutes nos forces sur le streaming, la dématérialisation et le multiplateforme PC et même PlayStation. Donc après, vente d'Xbox, pourquoi ?
Oui, forcément. Bah oui,
quel est l'argument de vente d'une Xbox, hein ? Qu'est-ce qui différencie les Xbox ? À un moment donné, Microsoft va devoir choisir pourquoi ils continuent de vendre des consoles. Surtout s'ils tentent de penser au tout des maths, puisque on a eu des fuites sur une prochaine Xbox cylindrique qui n'aurait pas de lecteur de disque, tout ça. Bon, ça les démange, hein, comme Sony d'ailleurs.
Mais ils ont forcément un projet pour une prochaine génération, après ce qu'ils vont la sortir.
Une prochaine génération, tout des maths, parce que les consoles tout des maths, ça les démange, clairement Sony aussi. La PS5 Pro, elle est des maths, et puis les lecteurs de disque, ils sont très très rares. En réalité, tu n'arrives pas à en acheter. Donc, elle est concrètement, hein, elle est quasiment une console dématérialisée, quoi. Donc, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont préparer pour la prochaine Xbox, hein, s'il y en a une, de voir quel chemin sera pris. S'ils décident de se différencier sur le hardware, ils pourraient redonner, si tu veux, une raison d'acheter des Xbox. Mais le problème, c'est que s'ils ont un hardware qui est différenciant, c'est presque une quadrature du cercle. Si tu te différencies trop côté hardware, si tu essaies de faire une Nintendo, quoi, globalement, tu vas casser l'universalité de l'accès qui semble être au cœur de la politique Xbox en ce moment. Donc, j'ai pas trop d'illusions.
C'est compliqué, on n'a pas envie d'être à leur place, on sera juste observateur. Sur ce côté-là, oui, effectivement, mais pas à la place du... Ouah, si, remarque, lui aussi. Bon, allez, ok, tu veux qu'on parle de jeux vidéo ? Tu veux vraiment qu'on parle de jeux vidéo ? Continuons à parler de jeux vidéo et terminons cet épisode avec cette rubrique complément autour du jeu vidéo et justement un petit retour avec la dernière carte graphique de Nvidia, la 5080, qui envoie du lourd. Guillaume, tu l'as conseillé à tout le monde, c'est ça ?
Qui envoie du modérément lourd. La semaine dernière, on relayait le test de la 5090. Alors, je vous résume le test, si vous ne l'avez pas vu, c'était moins bon. Et donc, cette semaine, on passe au test de la 5080, dont je vous spoil la conclusion immédiatement, et qui est « on s'en fout ». Et c'était à prévoir. Hein. La série 5000, c'est le même process que la série 4000. Et ça a déjà valu la 5090 d'être une mise à jour très modérément excitante. Plus cher, plus de consommation, plus de puissance. Bon, voilà quoi. Un petit peu de tout ça, quoi, en fait. Hein. Et au moins, la 5090 avait-elle plus de mémoire vidéo, ce que n'a pas la 5080 par rapport à une 4080 Super. En fait, la 5080, elle est tellement proche de la 4080 Super qu'on se demande pourquoi cette carte existe. On est entre 5 et 13% de mieux au-dessus. La 5080 reste toujours nettement inférieure à la 4090 dans tous les cas. Et c'est une déception.
Elle est nettement plus chère pour cette différence, par contre.
Elle fait 1000 balles, quoi.
Et voilà pourquoi elle se vend.
C'est une déception.
Pourquoi elle est vendue.
C'est une déception. On se souvient quand même que la 4080 dépassait sans problème la 3090, tout en consommant moins et en étant nettement moins cher. Là, on est loin du compte cette fois. Hein. La carte coûte 1000 balles. Et c'est vrai qu'elle coûte 1000 balles en plus sur le papier, en théorie. C'est une autre raison de surtout pas chercher à acheter ce truc. Il n'y a pas de stock. Sur le papier, elle est sortie. Mais en pratique, il faudra encore attendre 3, peut-être 6 mois avant de les toucher au prix officiel. Bon, je ne sais pas s'il y a une production super limitée, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, mais bon. Ou c'est les scalpeurs, je ne sais pas, tout le monde les a scalpés. La carte, elle est épuisée un peu partout. Les prix sur eBay sont ridicules. 2000 balles pour une 5080, 5000 balles pour une 5090, totalement absurde. De base, c'est absurde, et en particulier pour une génération de cartes dont la pertinence est vraiment faible. Alors bien sûr, elle est performante quand même, hein. Bah, évidemment, la 5080 est très performante, bien sûr, c'est pas la question. Sa mémoire est un peu plus rapide. Le DLSS4, quand c'est exploité, bah, ça peut être agréable. Mais franchement, vu les prix, la disponibilité et le peu de gains face à la génération précédente, même en venant d'une génération 2000, à la limite, si vous venez d'une génération 2000, mais sinon c'est vraiment très dur à recommander. Si vous voulez upgrader votre 2060, votre 1060 et une génération 4000 d'occasion est encore nettement la meilleure option performance-prix. D'ailleurs, vu la 5080, je vois clairement pas comment on pourrait avoir ne serait-ce qu'une once d'intérêt pour une 5070 ou une 5060. Vu le peu d'écart entre une 5080 et une 4080, si l'écart est encore plus restreint entre une 5070 et une 4070, ben on va rentrer dans l'épaisseur du trait, quoi. On va bien voir.
La reco de la 4060 Ti reste valable, j'ai l'impression, encore heureux, ben ouais. À une semaine d'écart. Un petit mot sur BioWare, qui a désormais moins d'employés que DeepSeek.
Eh oui, tout à fait. Et puis, bon, DeepSeek, en plus, c'est vraiment deux tendances opposées, parce que DeepSeek, ça monte très vite, BioWare...
ça descend.
BioWare va pas bien du tout. Bon, Dragon Age Veilguard, c'est mal vendu, c'est leur troisième échec consécutif, après Mass Effect Andromeda et Anthem. Donc là, c'est qui tout double, hein. Le studio a considérablement maigri, donc il a perdu la moitié de ses effectifs. Alors, ils n'ont pas tous été virés, mais certains ont été relocalisés chez Electronic Arts. Alors, ça devait être temporaire. Bon, là, non, ce n'est pas temporaire. Là, ils vont se concentrer sur le prochain Mass Effect, ils ont intérêt à ne pas se rater. L'échec assez cuisant de Dragon Age a même fait baisser l'action Electronic Arts, significativement, hein. Et donc, un autre échec, bon, c'est clair que le studio disparaît. BioWare est donc très focus sur le prochain épisode du Space Opera favori des petits et des grands. Et il compte sur des vétérans, alors des gens qui étaient là dès la première trilogie, et même sur le légendaire KOTOR, hein, pour faire reprendre un petit peu la mayonnaise, quoi. Va falloir attendre, par contre, hein, parce que la bande-annonce de Mass Effect 4 date d'il y a 4 ans, comme Mass Effect 4. Le jeu serait encore qu'au tout début de son développement, puisqu'ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas besoin de tout le monde dans le studio. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils sont toujours en train de l'écrire, hein, plus ou moins. Donc compter sur rien de concret avant, je ne sais pas, 4 ans, comme Mass Effect 4, toujours, je pense.
On peut commencer à développer ?
Non.
Ouais, c'est logique. On peut commencer à développer ? Non, attendez les gars, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Ah bon, d'accord. je caricature évidemment. Un petit mot aussi pour terminer avec Sony qui fait le choix du bon sens quelque part, j'allais dire, Guillaume, et qui n'ira pas plus loin pour imposer comme ça sa connexion au compte PlayStation sur PC.
Ouais, enfin, ça y est, vous n'avez pas besoin de compte PlayStation pour jouer aux 4 jeux remasterisés sur Steam. Que sont Spider-Man 2, God of War, Last of Us 2 et Horizon. Alors, les comptes PlayStation sont optionnels, mais il y a des incitations quand même pour les joueurs qui s'enregistrent. Hein. Voilà, ils peuvent accéder à des trophées, les achievements, quoi. Ils peuvent gérer leurs amis PlayStation Network,
logique,
ça, avoir des récompenses, des tenues spéciales, tout ça, tout ça. Les récompenses ne sont pas exclusives aux comptes PlayStation, d'ailleurs, mais bon, bref. En tout cas, c'est une décision qui est un revirement politique de Sony, suite à une réaction très négative et tout à fait compréhensible des joueurs PC, qui s'est insurgé donc contre l'obligation d'avoir un compte PlayStation, et qui rappelle d'ailleurs la controverse Helldivers 2, hein, où les joueurs avaient protesté aussi, et finalement Sony avait fini par renoncer, quoi.
Merci beaucoup Guillaume pour cette compilation des essentiels de l'actu des nouvelles technologies de cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment, et surtout que vous avez joint l'utile à l'agréable, parce que j'espère aussi que les informations qui ont pu être partagés dans cet épisode vous seront utiles et de nature à compléter votre culture sur les nouvelles technologies. Si jamais vous avez apprécié cet épisode et si vous êtes encore en train de l'écouter, c'est vraiment que pour vous, Tech Café a du sens et un rôle complet dans votre quotidien. Donc évidemment, je ne peux que vous inciter à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé et d'envisager un soutien. Je vous rappelle l'incontournable du moment. Au mois de mars, il y aura une bascule du mode de fonctionnement de Patreon qui ne prélèvera plus à l'épisode mais qui fera des prélèvements mensuels. Dans les faits, finalement, ce sera les mêmes montants qui correspondront puisqu'il y a quelque part un multiplicateur qui est appliqué. Mais vous n'aurez plus la possibilité de plafonner vos participations. Donc, si vous voulez en profiter durablement, il faut vous inscrire avant cette date-là. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, bien évidemment, comme je vous incite aussi à aller jeter un coup d'œil sur Discord, techcafé.fr/discord, et à laisser des avis dans les apps de podcast comme Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify. Et puis, bien entendu, vous le savez, on peut discuter individuellement. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver, toi, Guillaume ?
Oh, mais moi, je vais continuer à torturer mon petit R1 personnel. Là,
hein, avec espèce de sadique.
Avec des histoires de chèvres et de choux. Bon, on va tester ça.
Oh.
Super, tu disais tout à l'heure. Sortir. Ouais.
tu disais tout à l'heure que ça le rendait presque mignon, tu vois.
Oui,
qu'il se plante,
mais bien sûr.
Mais du coup, quand tu dis ça, ça te rend presque sadique.
Ah, mais ouais, t'as raison. Ah, merde, c'est vrai,
ça. Ça n'en est que plus jubilatoire.
Vrai,
merci.
C'est mignon, écoute, c'est fou. Comme tu peux lire ce qu'il pense, tu sais, à tout moment, il se dit « Ah, mais non, mais là, ça va pas. Attends, peut-être que si je fais ça, ah, mais non, ça va pas. Je suis
t'imagines
bloqué, là. Mais alors, attends, je vais essayer ça. »
Les bras croisés, en train de regarder.
C'est fou. Non, mais je te jure, c'est vraiment mignon, quoi. On sent qu'il met tout son cœur, quoi. C'est « Oh là là. »
Espèce de sadique, va. Merci beaucoup de ton sadisme, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Blue Sky, en train de structurer ma présence sur YouTube, de temps en temps sur Twitch, donc vous avez les liens dans les notes de l'épisode. En cette fin de semaine, il n'y aura pas d'épisode supplément, mais il y aura quand même un épisode spécial avec une interview. Vous allez voir, on ne baisse pas les bras dans Tech Café. Et on se confronte à nos convictions les plus profondes. Et j'ai fait une interview, une assez chouette interview, je dirais, d'une personne avec qui on a parlé de crypto-monnaie. Donc, vous allez voir qu'on remet sur le devant de la table ces sujets-là. Je vous laisserai écouter et réagir, bien évidemment, et me partager votre sentiment avec cette interview. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.